Jean-Marc Simon, bonjour.
Bonjour.
Qui est responsable à vos yeux de ce bombardement qui a causé la mort de 10 personnes en novembre 2004 ?
Ah, cette affaire qui est une affaire douloureuse est aussi une affaire ténébreuse. Si vous voulez, il faut se replacer dans le contexte de l'époque de cette opération. Le nord de la Côte d'Ivoire est aux mains d'un groupe de rebelles qui s'appelle les Forces Nouvelles et qui tiennent à peu près la moitié du pays, la moitié nord du pays. Et en 2004, le président Gbagbo, les autorités légitimes, espèrent pouvoir reconquérir ce territoire par la force. Et ils montent une opération militaire qui s'appelle l'opération Dignité. Un nom qui malheureusement ne se montrera pas très justifié. Et cette opération contre laquelle le président Chirac avait mis en garde Laurent Gbagbo quelques jours avant, en lui disant que c'était quelque chose de beaucoup trop hasardeux et dangereux, a tout de même monté cette opération. Sur le terrain, les forces loyalistes ont remporté quelques difficultés. Les forces nouvelles étaient, semble-t-il, plus fortes que les forces du colonel Mangou, qui à l'époque dirigeait l'opération. Mais ce qui s'apprêtait à faire la différence, c'était l'aviation. Les forces nouvelles ne disposaient pas de moyens aériens, ce qui n'était évidemment pas le cas des forces régulières ivoiriennes. Donc, à un moment donné, il y a eu plusieurs bombardements des positions rebelles. Et à un moment donné, il semble qu'il n'ait plus connaissance de l'endroit où se trouvaient ces combattants. Il n'avait pas connaissance de l'endroit où avaient disparu les unités rebelles. Et donc, il y a eu un renseignement qui était un mauvais renseignement, qui est parvenu, semble-t-il, à cette aviation loyaliste, selon lesquels ces rebelles se seraient réfugiés dans le camp français. Et ça explique que les deux Sukhoi aient fait deux passages sur la caserne française, hein, qui était le lycée Descartes. Deux passages qui ont été bien notés par les témoins de l'époque, et certains ont pu me le raconter, en rase-motte. Donc, il était parfaitement ostensible qu'il s'agissait d'une emprise française, puisqu'il y avait les couleurs françaises qui flottaient au-dessus de ces bâtiments, et il n'y avait aucun doute possible. C'est au deuxième passage que les avions ont lancé leur panier de roquettes et qui ont tué 9 militaires français et un citoyen américain qui avait trouvé refuge à cet endroit, pensant être à l'abri.
Donc votre thèse, Jean-Marc Simon, c'est que l'aviation de Laurent Gbagbo a frappé ce camp militaire français parce qu'elle pensait que ce camp abritait aussi des rebelles de Guillaume Soro, c'est ça ?
Moi, c'est mon hypothèse, c'est mon avis. Enfin, et ça, je me suis formé cette conviction en entendant divers témoignages. Mais je ne suis qu'un observateur, je ne suis pas un juge d'instruction, je ne suis pas chargé d'une enquête quelconque. Mais j'ai essayé de m'informer, de comprendre ce qui avait pu se passer parce que c'était tout de même une affaire extrêmement douloureuse et qui a eu des conséquences que vous savez sur la relation franco-ivoirienne, sur notre relation avec le président Gbagbo, etc. Mais la question centrale, c'est de savoir qui a donné l'ordre de lancer les paniers de roquettes. Parce qu'il est évident que ces pilotes biélorusses accompagnés de copilotes ivoiriens n'ont pas pris cette décision tout seuls. Ils ont référé et ils ont demandé des instructions. Et ces instructions sont forcément venues de haut lieu. Et donc, la personne ou les personnes, ceux ou celles qui ont décidé de bombarder, étaient suffisamment élevés dans la hiérarchie pour pouvoir prendre une telle décision. Alors, dire que c'est le président Gbagbo lui-même, je n'irai pas jusque-là. Parce que je sais que notre ambassadeur à l'époque, mon prédécesseur, a toujours estimé que Gbagbo n'était pas informé et que c'est lui-même qui l'a informé de ce qui s'était passé à Boaké. Donc je crois qu'on peut lui en faire le crédit. Maintenant, voilà, l'affaire a-t-elle été minimisée pour que les choses ne remontent pas aussi haut? Ou bien des gens ont-ils pris des décisions sans en référer au président de la République? Pour l'instant, personne ne le sait.
Donc votre thèse, c'est que ce sont des radicaux autour de Laurent Gbagbo qui frappent ce camp militaire français pour atteindre les rebelles qui se trouveraient dans le camp. Il y a d'autres experts qui pensent que les radicaux pro-Gbagbo ont frappé les Français pour que ceux-ci exercent des représailles et que le peuple ivoirien se soulève contre la France.
Oui, ça, je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup à ça. Je crois que c'est une explication un peu trop compliquée. Et dans ces affaires-là, l'expérience montre que ce sont toujours les hypothèses les plus simples qui se rapprochent le plus de la vérité.
Et puis, il y a une troisième hypothèse, celle qui est défendue par un certain nombre de familles de victimes et par l'avocat Jean Balland. C'est une manipulation française qui aurait mal tourné. Il fallait pousser Laurent Gbagbo à taper un camp militaire français pour justifier ensuite un coup d'État anti-Gbagbo.
Oui, alors là, je crois qu'on est en pleine fiction et en plein fantasme. Ne cédons pas à ces thèses complotistes. D'ailleurs, je crois que cela a été maintenant totalement écarté, puisque personne dans la hiérarchie française n'est aujourd'hui impliqué et aucune charge n'a été retenue contre les ministres français qu'on avait à un moment donné imaginé responsables de cette opération.
Oui, mais tout de même, Jean-Marc Simon, les relations Chirac-Gbagbo étaient exécrables. Trois jours avant, Chirac avait appelé Gbagbo pour lui demander de ne pas attaquer les rebelles, et comme Gbagbo refusait de l'écouter, le ton était monté.
Oui, bien sûr, mais justement, comment voulez-vous qu'il y ait une responsabilité dans un contexte comme celui-là ?
Peut-être Chirac voulait-il se débarrasser de Gbagbo militairement ?
Écoutez, je crois que jamais ça n'a été fait, ni même envisagé. Le dialogue a toujours été préféré à toute autre solution. Marcoussi, après Marcoussi. Quand il y a eu des incidents, c'est parce que les forces françaises défendaient leurs emprises et les ressortissants. Mais il n'y a jamais eu rien de tenté contre Gbagbo et son régime.
Oui, mais 7 ans plus tard, quand vous étiez ambassadeur de France à Abidjan, n'est-ce pas ce qui s'est passé ? Et Sarkozy ne s'est-il pas...
Dans des conditions totalement différentes. Et encore une fois, c'était pas Gbagbo lui-même qui était visé, mais les armes lourdes qui étaient utilisées contre la population.
Ce qui alimente la thèse de Maître Balland sur une éventuelle manipulation française, c'est le fait que Paris n'a rien fait ensuite pour faire arrêter les deux pilotes biélorusses qui ont bombardé le camp militaire français. Pire encore, dans leur fuite, les pilotes ont été arrêtés à Lomé. Et quand le Togo a demandé à la France si ces pilotes l'intéressaient, la France a répondu « Non, vous les laissez rentrer chez eux ».
Alors, effectivement, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Mon sentiment est que les bonnes questions n'ont pas été posées aux bonnes personne et au bon moment, et que l'information n'est pas remontée comme elle aurait dû l'être auprès des décideurs, c'est-à-dire auprès du ministre de la Défense et auprès du président de la République, qui n'ont dû être informés que plus tard, et encore peut-être même pas informés du tout, que ces types étaient aux mains des Togolais. Je pense que c'est plutôt une mauvaise gestion administrative qu'un complot quelconque, pour moi c'est évident.
Mais tout de même, la juge d'instruction française, dans son ordonnance de renvoi de 2016, écrit: la décision de ne rien faire concernant les pilotes arrêtés au Togo a été prise à l'identique par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères, ce qui permet de penser à l'existence d'une concertation à un haut niveau de l'État et non au fait que des services subalternes ou techniques aient géré la situation.
Oui, ça je ne sais pas. Je pense que nous en saurons beaucoup plus après le procès. Attendons de voir les choses.
Et attendons en effet d'entendre les témoignages de Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, qui ne sont pas poursuivis par la justice française, ainsi en a décidé la Cour de justice de la République, mais qui seront auditionnés comme témoins.
Comme témoins, absolument, oui.
Michel Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense à l'époque, dit qu'il n'y avait pas de base légale pour arrêter des hommes détenus au Togo. Est-ce que c'est crédible après la mort de 10 personnes à Boaké?
Oui, il n'y avait probablement pas de base légale. Il aurait fallu demander une commission rogatoire, demander au Togo de les arrêter, ce qui n'a pas été fait à ce moment-là.
Dominique de Villepin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, dit qu'il n'a été à aucun moment amené à traiter ce dossier. Mais est-ce que c'est crédible? Puisque quand le ministre togolais de l'Intérieur, François Bocco, a averti la France de la présence de pilotes biélorusses sur son territoire, c'est logiquement le ministère français de l'Intérieur qui l'a saisi, non?
Non. Le ministre togolais, il a saisi l'ambassade de France à Lomé. Et l'ambassade de France à Lomé a saisi le ministre des Affaires étrangères. Moi, je ne suis pas du tout surpris que le ministre de l'Intérieur l'Intérieur n'ait pas été informé dans l'immédiat d'une telle affaire.
Oui, ça a dû arriver au cabinet de Michel Barnier, alors.
Oui, au cabinet de Michel Barnier ou dans les services de la direction d'Afrique.
Alors, il y a quand même une hypothèse, Jean-Marc Simon, c'est que la décision de laisser filer les pilotes biélorusses ait été prise à un haut niveau à Paris, c'est ce que pense en tout cas la juge Kéris. Si c'est le cas, pourquoi aurait-on laissé filer ces pilotes ?
Alors là, moi, je n'ai pas de réponse, je suis désolé. On peut faire toutes les hypothèses, mais je n'en vois aucune qui me séduise.
La thèse d'une volonté de Paris de ne pas compliquer ses rapports avec Minsk et Moscou, est-ce que c'est crédible ou pas ?
Écoutez, je ne sais pas quel était l'état des relations entre Paris et Minsk en 2004. Je n'ai pas les éléments pour répondre à cette question.
Il s'avère que l'exfiltration de ces pilotes biélorusses via le Togo a été organisée avec l'aide d'un marchand d'armes français, Robert Montoya, qui acheminait matériel et équipage auprès de Laurent Gbagbo depuis la Biélorussie via le Togo. Est-ce que Robert Montoya aurait pu jouer un rôle dans tout cela ou pas ?
Écoutez, le nom de Montoya était souvent prononcé dans les affaires d'armement entre la Côte d'Ivoire et le Togo où il résidait. Je n'ai pas d'autres informations et je ne peux rien vous dire de plus à cet égard.
Est-ce qu'à propos de ces deux pilotes biélorusses qui ont pu se faire la belle, est-ce qu'on peut parler d'une grosse bévue ? Et est-ce qu'au-delà de cette grosse bévue, la France avait quelque chose à cacher ?
Bon, la France n'avait à mon sens rien à cacher. Si vous voulez, il est peut-être tout simplement possible qu'après avoir détruit la flotte de Laurent Gbagbo, on n'ait pas voulu aller plus loin.
Plus loin dans quel sens ? Dans le sens de l'acharnement contre le régime de Laurent Gbagbo, c'est ça ?
Exactement.
C'est-à-dire qu'on n'ait pas voulu éclaircir les circonstances exactes de l'attaque du camp militaire français de Boaké, c'est ça ?
Oui, parce qu'on avait la conviction que Laurent Gbagbo en était le responsable et qu'on ne voulait peut-être pas aller, mais c'est une pure hypothèse, hein, et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à le remettre en cause de manière judiciaire. Et...
Oui, on peut imaginer que Jacques Chirac ne voulait pas un procès de Laurent Gbagbo devant un tribunal français, en fait, c'est ça ?
Oui, je ne sais même pas s'il était question de tribunal à ce moment-là, mais en tout cas de mettre en avant sa responsabilité.
Jean-Marc Simon, merci.